Moshe Usan, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour Radio Judaïka. Alors, vous êtes bénévole pour la communauté juive de Tunis, où vous êtes né, sauf, et de Djerba, en tout cas.
Et,
Alors, racontez-nous comment vous êtes passé déjà de la Tunisie à la France.
Alors, donc mes parents sont de Zarzis, et ils ont, après leur mariage, ils se sont installés à Tunis. Et à l'âge de 14 ans, je suis allé en France pour au lycée talmudique d'Aix-les-Bains. Donc j'ai fait seconde, première, terminale, où, là où j'ai eu mon bac, en 2006. Ça remonte déjà.
Et vous aviez fait l'école talmudique en Tunisie, non?
À Tunis, il y avait une école juive Rabat. Donc c'est le même style d'études, donc études laïques et études religieuses. Et on a continué en France.
Alors on dit que vous êtes le secrétaire du grand rabbin de Tunisie. Comment vous êtes arrivé là alors que vous êtes entrepreneur dans la vraie vie?
Alors, bon, comment je suis arrivé là? Je suis rentré des États-Unis en 2013, début 2013, et un copain à moi un jour m'appelle et me dit « Le grand rabbin doit se rendre à la fête de l'indépendance américaine du 4 juillet à l'ambassade américaine. » Et il me dit « Bon, tu parles anglais, ça te dirait de l'accompagner. » J'y suis allé. Et du coup, voilà, ça fait 10 ans.
Alors, parlez-nous un petit peu de lui, le grand rabbin Chaim Bitan. C'est un homme très discret. Alors, vous qui le connaissez bien, pourtant, on sent que sa communauté, les gens l'aiment vraiment beaucoup.
Il est très calme, mais c'est un homme de conviction. Et quand il a une idée en tête, il va jusqu'au bout. Donc, on a entrepris des nouveaux projets, etc. Il m'a toujours soutenu pour les faire. Par exemple, tout ce qui a été les archives, etc. Il a été d'un grand soutien.
Qu'est-ce qui est important aujourd'hui pour la communauté juive de Djerba? C'est ce retour un peu des enfants et des petits-enfants des juifs tunisiens ou c'est plus de conserver ce qu'ils sont et leur communauté?
Le retour des deuxième, troisième génération, si c'est cela que...
Oui.
Alors, bon, ça concerne toute la Tunisie. Et ça ne concerne pas que Djerba. Et je pense que surtout que les juifs de Djerba, comme ils ont encore de la famille, donc les deuxièmes générations reviennent très souvent. Donc le travail qui est fait pour le retour de ces personnes-là est différent. Mais je pense, oui, Djerba... Si elle survit, c'est parce que elle vit dans un ghetto avec des conditions très particulières et ils sont très, très religieux et très traditionnalistes et conservateurs. Donc, oui. C'est ce qui fait la survie de la communauté, contrairement à plein d'autres endroits.
Pourquoi c'est important que les gens viennent du monde entier pour ce pèlerinage de la Griba?
Important pour... Je ne sais pas si c'est important, mais bon, pour la Tunisie, c'est important. Pour... En tant que Tunisien, c'est une fierté d'attirer autant de monde avec une organisation qui est très bien, avec une sécurité importante. Donc on essaie de que chaque année, ça soit une réussite pour que ça soit une... Pour que la saison touristique démarre sur un bon pied, on va dire. Et comme on est au début du mois de mai, on est au plein début. Et si un événement pareil réussit, c'est de bon augure.
Est-ce que vous étiez hier soir à la fiesta des locaux, j'ai envie de dire, Moshe Usan, parce que les étrangers étaient surtout dans la journée et on dit que c'est des Djerbiens qui font la fête le soir dans la Griba quand les autres sont partis.
Alors, j'ai une longue journée, donc je suis resté jusqu'à 9h30. Mais oui, c'est surtout que je suis originaire de Zarzis. Donc, je revois mes oncles, mes tantes, mes cousins qui arrivent le soir. Et donc, je reste un peu avec eux. Et donc, c'est très festif. Les gens chantent entre eux. Vous avez plusieurs tables. Et donc, de personnes qui se mettent à chanter, manger ensemble et boire. Voilà. Je trouve que c'est très familial comme ambiance.
C'est l'Agba Omer avec des feux ou pas spécialement?
Ici, non. C'est pas le minag. C'est pas l'habitude.
Alors, l'année dernière, en marge du pèlerinage de la Griba, il y avait un appel qui avait été lancé pour sauvegarder le patrimoine juif tunisien, et notamment le cimetière de Borgel, etc. Est-ce que c'est une initiative qui continue et quels sont les endroits qui sont concernés?
La sauvegarde du patrimoine juif en Tunisie, c'est une longue guerre, on va dire, une longue guerre contre le temps et contre ceux qui sont partis. Donc il faut les sensibiliser les deuxième, troisième génération, par exemple, pour revenir et réparer les tombes. Parce que les cimetières, c'est quelque chose de très particulier, parce que c'est des biens privés, les tombes, sur des biens communautaires. Donc c'est assez compliqué à mettre en place, mais oui, les gens sont sensibles à cela et la communauté essaie depuis un moment en premier lieu de répertorier tous ces cimetières et ces tombes, et ensuite de les réparer. Il y a une initiative qui est faite surtout sur le cimetière du Bourget parce que c'est le plus important en Tunisie, et j'espère qu'elle sera menée à bout.
Est-ce que vous avez l'impression aussi que la préservation des synagogues, c'est facile aujourd'hui, en 2023, en Tunisie?
Il y a plusieurs problématiques. Il y a une problématique d'argent. Il y a une problématique aussi de personnes, parce qu'il faut trouver les gens qui vont aller sur place, superviser les travaux, etc. Donc c'est pas du tout évident. Donc aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est d'abord de sécuriser. On va dire, c'est mon idée, c'est de sécuriser légalement ces synagogues, c'est-à-dire retrouver les titres de propriété, etc. Et ensuite sécuriser physiquement en mettant des fenêtres, des portes. Et dans un prochain temps, les réparer peut-être et au moins les mettre à disposition du public qui voudrait les visiter un jour.
Est-ce que quand vous étiez petit, vous vous rappeliez de cette coutume du grand rabbin Bitam de monter sur le toit et de sonner du shofar avant le Shabbat?
Alors, la première fois que je l'ai découverte, c'était sur une vidéo, parce que j'habite pas du tout à Djerba. Mes parents sont de Zarzis et quand on venait faire les fêtes auprès de nos grands-parents, c'était surtout vers Zarzis.
Mais ça marque les esprits, je crois, cette histoire du shofar. Il n'y a que lui qui fait ça ou c'est aussi une coutume tunisienne?
Alors bon, c'est surtout que c'est une coutume très 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 vieille. Ça marque les gens qui en ont entendu parler par les textes qui ne l'ont jamais vu être appliqué. Mais à Tunis, je n'ai pas souvenir. Surtout qu'à Tunis, il y a plus de quartiers juifs comme avant. Ça a disparu depuis les années 60.
Même en Israël, je vous rassure, on ne sonne pas le shofar pour annoncer l'entrée du Shabbat. Il y a une sirène de temps en temps, mais ce n'est pas comme ça.
C'est pas la même
Donc
chose.
peut-être on doit apprendre des leçons en Tunisie. Et il paraît que le grand rabbin fait aussi de l'abattage rituel et la circoncision ici.
Oui.
Donc ça fait beaucoup pour un seul homme. Il n'y a pas d'autres gens aussi pour faire des circoncisions et de l'abattage
Il y
rituel?
en a d'autres qui le font. Mais on va dire qu'il est. Il a, comment dire, plusieurs flèches à son arc. Mais bon, à Tunis, je vais vous dire, par exemple, même à Tunis, où on est une toute petite communauté, encore moins que Djerba, les gens, on va dire, essaient d'être polyvalents. Donc vous avez le boucher qui est aussi abatteur rituel. Il est rabbin de la grande synagogue, il gère aussi l'école. Et il fait aussi, par exemple, la Chevra Kadisha. Donc d'ailleurs, on lui tire notre chapeau à Amram.
Et où on en est du projet de création d'un musée de la mémoire judéo-tunisienne à Tunis? Vous êtes au courant, mon cher?
Oui, c'est un projet qui est dans les canaux depuis longtemps, mais qui n'a pas encore été mis en place. La problématique qui s'est souvent posée, c'est l'endroit d'abord où va se faire ce musée. Et à titre personnel, le mieux, ce serait de le faire dans le musée du Bardo, qui est un musée de tous les Tunisiens, et ne pas séparer les Juifs et en faire une entité à part. Donc, ça a été l'idée qu'avait soutenue M. Bismuth, l'ancien président de la communauté juive de Tunis, et je pense que je la partage.
Qu'est-ce que c'est votre priorité aujourd'hui et comment vous faites en fait pour rester autant tunisien, Moshe Huzan, en étant à Paris maintenant?
Je ne suis pas à Paris.
Ah, vous êtes plus souvent là alors.
Ah oui, ça fait 10 ans que je suis à Tunis.
D'accord.
Donc, je ne suis pas du tout à Paris, mais je pense d'abord le fait de parler arabe à la maison fait que quand on arrive à Tunis, on est directement dans l'ambiance, quoi. On ne se sent pas étranger. Je pense que la langue
Ouais.
est un premier lien primordial entre les gens.
Bien
Et
sûr.
voilà. Donc nous, ma famille, en tout cas, on a notre langue maternelle est l'arabe. Et donc, quand on arrive en Tunisie, on se sent chez nous, quoi.
Merci beaucoup, Moshe Usan.
Avec grand plaisir.